Bonjour Cécile Quentin, vous allez bien?
Oui, bonjour, merci. Oui, je vais très bien.
Je suis contente qu'on se rencontre aujourd'hui parce que c'est peut-être votre dernier jour de liberté ou de tranquillité, je ne sais pas comment le dire de manière pas péjorative, mais les écoles vont fermer, donc c'est le moment pour en profiter pour aller au labo aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est le dernier jour avant un mois, mais quasiment probablement, ouais.
Ok. Donc on prend le bus? On prend le bus ensemble?
Volontiers, on monte sur le plateau.
On va plutôt dans le fond.
Oui, comme vous voulez.
Là, oui, très bien.
Donc Cécile Quentin, est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez pris que vous êtes montée sur le plateau de Saclay?
La première fois que je suis montée sur le plateau de Saclay, je me suis dit c'est la campagne. Et c'était il y a bientôt 20 ans. Et maintenant, c'est tout sauf la campagne. Voilà, mais ouais, je me rappelle de ça venant moi-même de la campagne en fait. C'est la première chose qui m'a marquée. Mon labo était quasiment à la limite des premiers champs.
D'accord, donc il y avait encore des champs juste à côté du labo, de votre labo.
Pas tout à fait juste à côté du labo, mais quasiment à 100 mètres, il y avait des champs.
D'accord. Et maintenant, il y a quoi?
Maintenant, il y a l'emprise d'un chantier. L'emprise d'un chantier, je crois que c'est le chantier BPC, en fait, qui doit commencer là, juste à côté du rond-point.
BPC, c'est pour quoi?
Biologie, pharmacie, chimie. C'est le grand projet... La grande barre, en fait, qui est en construction.
D'accord, ok. Et ça vous plaisait, ce côté un peu campagne, avec les champs?
Ouais, ça me plaisait. Je trouvais que ça faisait respirer d'un côté mon labo à la forêt. Et en fait, dès qu'on sortait du labo en allant de l'autre côté, on avait les champs. Donc c'était assez agréable. Et après, moi, pour mes cours, j'utilisais ces champs pour aller prélever des sols, par exemple. Et maintenant, on ne peut plus.
Ah oui, donc vous alliez avec les étudiants dans les champs faire des prélèvements directement?
Oui, directement des prélèvements de sol pour leur faire la main, pour qu'ils aient un peu les premiers touchés, les premières sensations qu'on peut avoir quand on touche un sol. Vu que c'était un sol agricole, on pouvait faire beaucoup de choses dessus d'un point de vue pédagogique.
Très bien. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans l'évolution du plateau?
Ce qui me marque le plus en premier, on va dire déjà, c'est le bétonnage. Hein. Il y a plus de sol agricole à proximité du labo, mais je vais dire bien plus loin encore. C'est le bétonnage, c'est les bâtiments qui poussent, la transformation donc physique du plateau et de l'université. Et puis après, c'est la transformation de notre université depuis maintenant presque 10 ans, quoi. Voilà.
Et est-ce que les enseignants chercheurs et les chercheurs ont pu participer à cette transformation?
Moi je dirais que malheureusement non. En tout cas pas suffisamment. En tout cas on n'a pas été consultés directement sur le projet Paris-Saclay. Il n'y a pas eu de choses qui pourraient s'apparenter à un référendum, en tout cas un questionnement ouvert sur le projet Paris-Saclay tel qu'il est à l'heure actuelle. Pourtant, les personnels, je dirais pas que les enseignants-chercheurs et chercheurs, mais tous les personnels, pourtant ont eu des expressions, en tout cas en faisant part de leurs inquiétudes, voire de leur hostilité à un projet qui quand même remettait en cause un certain nombre de valeurs de l'université. Et puis, mais il n'y a jamais eu de consultation, je dirais directe, en fait, des personnes.
Ok. Qu'est-ce qui aurait été différent s'il y avait eu une consultation, si les enseignants chercheurs avaient pu s'exprimer?
Je suis pas sûre que ça aurait empêché, en tout cas, le projet. Ça aurait peut-être fait discuter ou en tout cas rendre peut-être prévisible. Non, c'est pas prévisible le bon mot, mais en tout cas les directions auraient pu se rendre compte des dangers en fait pour les personnels de cette évolution finalement rapide qui a remis en cause beaucoup de services, de façon de travailler, et Là, on voit à l'heure actuelle, il y a beaucoup de souffrances, il y a des burn-out, il y a des pertes de sens dans notre travail, qu'on soit chercheur ou personnel administratif et technique.
Oui, parce que ça touche aussi les personnels qu'on appelle de soutien à la recherche.
Oui, tout à fait. En fait, même je dirais, c'est presque eux qui le subissent de plein fouet, parce que avec l'université, la création de l'université Paris-Saclay, il y a des grosses réorganisations des services, des mutualisations, des nouveaux services qui se créent, des nouvelles directions. Et en fait, il y a les personnels, même si soi-disant ils ont été associés, en fait, ils voient bien que leurs avis n'ont pas compté. Et il y a une réelle souffrance, en fait, des personnels. Et même dans ce qu'ils appellent les directions, les personnels, on va dire, de direction, sont aussi pour beaucoup perdus, en fait, dans ce système. Alors, il y a une perte de sens, une perte de valeur. Et je dirais qu'il y a du coup des risques psychosociaux associés à cette fusion qui émerge. Je ne sais pas si c'est uniquement des risques, c'est peut-être même déjà des choses maintenant qui sont... On a dépassé le stade de risque. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en souffrance réelle avec cette fusion. Donc peut-être que cette fusion aurait été mieux accompagnée, en fait, s'il y avait eu un vrai questionnement, en fait, de l'ensemble des personnels.
Très bien. Bon, le sujet est un peu grave, mais on va quand même voyager un peu ailleurs qu'au plateau de Saclay. Dans les pays tropicaux, dans les zones tropicales, c'est un peu votre terrain d'étude. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites ?
Oui, alors, bon, moi j'ai la chance de travailler sur effectivement des sols qui se développent dans la bande intertropicale. Donc ça peut faire rêver. Je travaille au Brésil, je travaille en Nouvelle-Calédonie ou en Inde. Et en fait, je travaille sur des sols très particuliers qui sont naturellement riches en métaux, comme le nickel et le chrome. Et en fait, on étudie la dynamique de ces métaux dans ces sols si particuliers. On essaye de comprendre comment le nickel et le chrome qui sont présents dans les sols ou les profils d'altération, la couverture d'altération, peuvent passer du compartiment sol à, par exemple, le compartiment eau, voire dans les lacs, voire dans les rivières, et donc ils peuvent après présenter un risque toxique pour les hommes, mais aussi pour la végétation, pour les animaux qui vivent dans ces écosystèmes. Et en plus, ces sols, ces milieux, du fait qu'ils soient naturellement riches en nickel, eh bien, ils sont exploités pour la mine, par exemple. Si on pense à la Nouvelle-Calédonie, c'est une des principales réserves de nickel au monde et un des premiers producteurs de nickel. C'est pareil pour le Brésil. Et en fait, on regarde comment l'activité minière et métallurgique va perturber le cycle biogéochimique du nickel. Et pour bien comprendre, en fait, cette perturbation, on appréhende le cycle du nickel en se focalisant sur les différents compartiments, donc le solide, le liquide, la plante aussi. Et on utilise des outils isotopiques qui nous permettent de tracer à la fois la source du nickel, c'est valable aussi pour d'autres métaux, et les processus qui affectent cet élément au cours des différents changements de compartiments.
Ok, donc il y a une phase de prélèvement. Mais il y a aussi une phase d'étude, d'analyse, en fait, de ces échantillons. Dans quel cadre vous faites ces analyses ?
Alors, effectivement, on a la chance de pouvoir les prélever sur le terrain, avec des collaborations, soit avec mes collègues brésiliens, soit avec des collègues indiens. Donc, on a des projets nationaux et internationaux qui supportent nos recherches. Et puis, pour la Nouvelle-Calédonie, on a des projets locaux, du CNRT, donc c'est le Centre National de Recherche Technique sur le nickel. Donc ça nous permet d'aller sur le terrain et aussi après de rapporter nos échantillons au labo, de les étudier au labo par différentes approches, qu'elles soient minéralogiques, microscopiques, géochimiques. Et par exemple, on travaille en salle blanche pour purifier nos échantillons quand on veut après caractériser la signature isotopique du nickel, par exemple. Et puis aussi, on amène nos échantillons sur synchrotron pour aller caractériser ce qu'on appelle la spéciation solide du nickel et du chrome, c'est-à-dire, en fait, regarder quel est l'environnement atomique du nickel, par quoi il est entouré, du coup dans quelle phase minérale ou organique il se trouve, donc comment ça va évoluer cette spéciation solide au cours des changements de compartiment du nickel.
D'accord. Et le synchrotron, il y en a un ici à Saclay, le Soleil. Est-ce que vous y allez ?
Oui, on y va régulièrement. On a la chance d'avoir régulièrement des projets acceptés sur le synchrotron Soleil pour aller justement caractériser nos échantillons.
D'accord. Ces voyages pour aller prélever des échantillons, c'est pas trop d'actualité avec la Covid. Alors j'imagine qu'on a toujours des échantillons à analyser et tout ça, mais ça a peut-être un peu bouleversé vos projets de recherche aussi, la crise.
Alors oui, tout à fait. On a d'ailleurs un projet qui s'appelle Chronique, hein, pour chrome et nickel, en Nouvelle-Calédonie, qui a démarré en 2019. Et en fait, on n'a toujours pas pu, nous les métropolitains, aller sur le terrain, puisque en fait, on s'est pris la crise de plein fouet. Donc heureusement, en fait, il y a des collègues qui sont sur place, hein, et aussi on a un doctorant qui est sur place.
D'accord.
Et qui justement a pu commencer le travail avec l'appui bien sûr de l'équipe sur place, de l'IRD notamment. Et comme ça, on limite la casse, hein, mais effectivement, là, tout le travail de terrain était fortement ralenti. Bon, après, bien sûr, aller au Brésil actuellement, c'est impossible également. Du point de vue sanitaire, c'est irresponsable d'y aller.
Ouais. Voilà. Très bien. Bah, on a hâte que ça se termine, tout ça. Est-ce que... donc vous prenez le bus régulièrement. Qu'est-ce que vous faites dans le bus ?
Eh ben, dans le bus, soit je lis, soit je rêve.
Et vous rêvez à quoi ?
Je sais pas. C'est peut-être pas du rêve, c'est peut-être plutôt... penser à rien, me préparer pour ma journée quand c'est le matin, et puis l'après-midi, en fin de journée, me dire voilà, je quitte mon travail et je passe à autre chose.
Oui, c'est une façon de découper un peu les vies personnelles et professionnelles, ce qu'on n'a plus en télétravail d'ailleurs.
Tout à fait, c'est vrai que le bus permet ça, le bus ou le RER, mais le bus le permet. On quitte tranquillement notre travail avant de passer à autre chose. Alors c'est vrai que le télétravail, on n'a plus ces phases de passage, de découpage en fait de la vie personnelle et de la vie de travailleur. Pour ça, il faut sortir prendre l'air,
ouais.
Se bouger un peu, mais c'est envahissant.
Bah, surtout qu'en plus, quand on monte sur le plateau, on a quand même un cadre assez sympa. Même s'il y a de plus en plus de bâtiments, il y a quand même de l'herbe. Il y a une vieille ferme à côté. On voit de la nature.
Oui. C'est vrai que par rapport à d'autres campus, on a de la chance. On a quand même un milieu ouvert. Un milieu ouvert qui peut permettre un peu de souffler. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu moins vrai parce que... Là, quand je vois, on passe dans une zone où finalement tous les bâtiments ont quoi, moins de 3 ans, moins
oui.
de 5 ans. Donc les bâtiments ont poussé bien plus que les arbres en fait. Parce que même si bon, c'est soi-disant un campus environment friendly, on peut quand même se poser des questions quand on voit le béton par rapport à l'arbre, par rapport à la végétation, par rapport aux animaux. Donc. On a de la chance, mais quand même, c'est...
Voilà. La controverse la plus actuelle, c'est sur la ligne 18, il me semble.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette ligne, vous qui la prendrez peut-être ?
Peut-être je la prendrai, je sais pas. En tout cas, on voit qu'avec la ligne 9106, on a déjà une bonne desserte du plateau. Donc, c'est une vraie question, je pense, cette ligne 18, ce prolongement ici. Personnellement, je ne suis pas sûre qu'elle soit nécessaire. Je ne suis pas experte du sujet, mais ce que je vois surtout, c'est que ça va se faire au détriment, encore une fois, des terres agricoles. Donc, il y a un slogan qui a été repris, hein, des légumes, pas du bitume. C'est vrai que moi, j'adhère complètement à ce slogan. Il y a déjà eu beaucoup d'imperméabilisation des sols sur le plateau. Rajouter la ligne 18, ça va faire qu'amplifier... Cette urbanisation en fait du plateau au détriment toujours des terres agricoles.
Hein. Moi, quand vous dites imperméabilisation des sols, ça a quoi comme conséquence ?
Alors les conséquences elles sont multiples. Hein. La première c'est que déjà vous décaissez ce qu'on appelle la terre végétale, hein, c'est un terme impropre, mais on décaisse énormément de sols pour le remplacer par des couches de route, hein, du bitume, donc ça limite fortement l'infiltration de l'eau, ça détruit en grande partie la biodiversité des sols, ça déstocke du carbone, on perd des nutriments, les flux d'eau sont fortement modifiés, donc il y a vraiment plein de conséquences à cette imperméabilisation des sols. Au niveau de l'Europe et même au niveau des lois françaises, hein, il y a normalement l'imperméabilisation des sols, elle devrait être fortement limitée, et pour moi le plateau de Saclay est le contre-exemple en fait de ce qu'on devrait attendre d'une politique environnementale et de développement urbain. La part de champs a été fortement réduite. Alors bien sûr, on nous dit oui, mais une partie est protégée avec la SNIEF.
La SNIEF, c'est un accord qui a été passé entre les...
C'est pas un accord parce que ça a été imposé, mais c'est une zone de protection des espaces naturels. Donc ça veut dire qu'il y a une bande de sol sur le plateau de Saclay sur lesquels, jusqu'à un changement de loi ou de directive, en fait, normalement, on ne peut pas construire. Mais est-ce que c'est les meilleurs sols qui ont été protégés ? J'en suis pas persuadée. Et en tout cas, ça n'enlève pas qu'on a mis des bâtiments sur certainement les sols qui sont parmi les plus productifs en Île-de-France et en France. Donc moi, je suis pédologue, ma thématique de recherche, d'enseignement, c'est les sciences du sol. Et ça, c'est difficilement acceptable, en fait, pour moi.
Okay. Est-ce qu'il y a quand même des effets positifs à l'évolution du plateau Saclay, le fait qu'il y ait de plus en plus de scientifiques, d'étudiants, de chercheurs sur le plateau, il y a quand même... Est-ce que ça a des retombées positives pour vous hein?
Je sais pas. En tout cas, moi, j'en vois pas d'immédiate. Au début, on nous a dit, vous allez être tous au même endroit, donc vous allez pouvoir créer des projets de recherche, parce qu'enfin, vous allez vous croiser au café pour discuter. Mais en fait, là, on passe à côté d'AgroParisTech. Moi, mes collègues, quand ils sont à Grignon ou à Paris, je peux quand même travailler avec eux. Ça m'empêche pas de monter des projets avec eux. C'est pas parce qu'ils vont être là que ça va être plus simple. En plus, on voit là avec ce qui se passe avec la pandémie, on est tous ou presque en télétravail. Donc, on est chacun chez soi. On peut même être assez loin, finalement, pour ceux qui ont la chance d'aller se retirer un peu à la campagne, et ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Donc ce premier argument de faire un cluster, alors le terme...
Il est un peu mal choisi
en ce moment, mais on parlait du cluster Paris-Saclay pour regrouper des chercheurs de différentes disciplines. Nous, on avait dit que ça c'était pas un bon argument. En tout cas, c'était pas l'argument qui devait motiver ce rassemblement. On travaille ensemble, qu'on soit à Orsay ou qu'on soit à Grignon, qu'on soit à Paris, quoi. Voilà, je pense que c'est un faux argument. Après, nous, dans notre vie de tous les jours, il n'y a pas plus d'argent dans les labos. Il y a des bâtiments neufs en construction, certains sont déjà occupés, mais il n'y a pas plus d'argent dans les labos. Il nous manque toujours autant de personnel. Et donc, dans la vie de tous les jours, franchement, je ne vois pas d'impact positif, en fait, au projet Paris-Saclay.
Très bien. Vous êtes aussi enseignante, du coup, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay. Donc, vous enseignez. Peut-être un petit mot aussi sur les changements pour les étudiants aussi.
Oui, alors les étudiants, par exemple, qui rentrent à l'université à l'heure actuelle, aujourd'hui, en fait, ils entrent pour certains dans une boîte qui s'appelle École universitaire de premier cycle, Paris-Saclay, et d'autres, parce qu'ils ont été sélectionnés pour des formations sélectives, ils rentrent à l'université Paris-Saclay. Donc, on a depuis l'année dernière une université à deux vitesses, qui existe et qui trie finalement les étudiants. Alors il y a débat sur ce terme de trier, moi je l'utilise hein, parce que je pense que c'est vraiment on trie les étudiants sur leur connaissance, sur leur capacité lorsqu'ils sont en terminale, à suivre tel ou tel cursus. Et certains auront un diplôme d'université Paris-Saclay, d'autres non.
Donc ça veut dire que ceux qui sont dans le... dans le, la première que vous avez
l'école
dit,
universitaire,
l'école universitaire, n'auront pas un diplôme de l'université Paris-Saclay.
Ils auront un diplôme de l'école universitaire de premier cycle Paris-Saclay.
Voilà.
Donc nous, on a dénoncé ça, on a collectivement, les organisations syndicales et puis certaines organisations étudiantes, parce qu'on trouvait que c'était injuste. Mais on nous a dit, mais ce sera quand même le ou la présidente de Paris-Saclay qui signera le diplôme. Donc c'est un faux problème, c'est un faux débat. Nous, on pense que c'est surtout le symbole d'un tri d'étudiants. On ne veut pas que tous les étudiants de l'université rentrent à l'université Paris-Saclay. Alors bien sûr, on nous dit, on va mettre des moyens supplémentaires à l'école universitaire de premier cycle. J'attends de voir.
Très bien. Eh bien, on va... s'arrêter là. C'est une bonne conclusion. On arrive à la station. Merci Cécile.
Ben merci à vous et j'espère que cette interview sera écoutée et puis intéressera des collègues, mais pas que.
J'en suis certaine. Merci.